Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour!
Bonjour!
Mélina, première semaine sans Louis, oui. qui nous a, disons, quittés pour d'autres combats, qui sait? Si vous venez d'apprendre ça, c'est que vous avez manqué l'épisode de la semaine dernière. Alors, je vous recommande fortement, si vous voulez la revoir, de vous rendre sur notre site web. Il n'est jamais trop tard pour bruncher, et donc vous verrez écouter cet épisode ainsi que tous les autres en balado-diffusion via notre site web cinébrunch.com ou en cherchant tout simplement Cinébrunch sur l'application balado de votre téléphone intelligent.
Exactement!
Et cette semaine, à l'émission, Mélina, tu vas nous parler du gala des Emmys,
qui,
ça date un peu, mais comme dit le proverbe, vieux moteur que j'aimais.
Exactement!
Et puis sinon, bon, évidemment, on va oser aborder, disons, un sujet un peu pointu, le sujet des films qu'on comprend pas, mais qui gagnent des prix.
Oui.
Donc, en deuxième demi-heure d'émission, on va jaser de tout ça. Évidemment, on va critiquer deux films, La vie en soi, que tu vas critiquer
j'ai
pour
vu,
nous.
Oui.
Oui, et moi, de mon côté, j'ai vu La disparition des Lucioles. Mais avant toute chose, il y a pas mal d'affaires dans l'actualité, Mélina.
Oui. En fait, moi, ce matin, j'ai appris, peut-être un peu tard, mais que la série... En fait, est-ce que, Jim, as-tu connu Charlie et ses drôles de dames? Charlie's Angel en anglais.
Oui, oui, de nom, mais je n'ai pas regardé.
OK. Donc, c'était une série télévisée dans les années 70 et en 2000, il y a une adaptation au cinéma qui a été faite. Et les trois anges de Charlie étaient interprétés par Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas trop de l'histoire, en fait, c'est l'histoire de trois femmes qui travaillent comme détectives pour Charlie Townsend, un personnage qu'on entend seulement, qu'on ne voit jamais. Lorsque les filles ont besoin d'aide, ben, elles passent par son assistant Bosley, qui était interprété dans les films des années 2000 par Bill Murray.
Oh!
Oui.
Je devrais définitivement m'y mettre dans ce cas.
Oui, ben, c'est deux films des années 2000, mais tout ça pour dire qu'en fait, ils sont présentement en tournage d'un nouveau Charlie's Angel. Ça l'a débuté un peu plus tôt cette semaine, donc ça vient tout juste de commencer. Ça va sortir en septembre 2019. Et c'est réalisé par Elizabeth Banks. C'est elle qui jouait le rôle de Effie Trinket dans la trilogie Hunger Games, donc l'hôtesse du District 12, donc qui suivait Katniss et Peeta dans leurs aventures. Donc c'est elle qui réalise le film, mais qui va également jouer le rôle de Bosley aussi, donc un peu l'assistant de Charlie. Et les trois anges vont être interprétés par Kristen Stewart, donc on a connu dans Twilight, qui jouait le rôle principal, Naomi Scott et Ella Balinska. Et Naomi Scott, en fait, je vous en ai parlé récemment parce que c'est elle qui va interpréter le rôle de Jasmine dans le film Aladdin, le remake que Disney est en train de faire en prise de vue réelle.
Oui, oui, oui.
Donc, voilà. Donc, on nous dit, en fait, il n'y a pas beaucoup de détails qui sont sortis, mais on nous dit que ce serait une version moderne de Charlie et ses drôles de dames. On parle peut-être de plusieurs équipes d'anges, donc de femmes à travers le monde qui règlent des problèmes et qui font leur boulot de détective pour trouver des gens ou des informations, des choses comme ça. Mais pour le moment, on n'a rien de plus sûr, donc on a juste les trois principales actrices de confirmer. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ça, oui. Je pense que ça peut être intéressant.
Dans un an, donc à peu près, hein?
Ouais,
mois de septembre. Et moi, de mon côté, une nouvelle qui va peut-être t'intéresser, Mélina, je sais à quel point tu aimes la politique municipale.
Oui.
Donc, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a décidé qu'elle voulait que la ville de Montréal augmente les retombées économiques des tournages de cinéma, donc cinématographique.
Okay.
Et bien évidemment, elle dit « Ouais, mais Toronto ramasse quasiment tout le package, on en veut nous autres aussi. » Parce que contrairement à Toronto, qui reçoit près de 1,5 milliard de retombées économiques par année en termes de production cinématographique, là-dedans, il y a beaucoup de productions étrangères qui viennent à Toronto pour tourner, ben Montréal ramasse seulement 400 millions annuellement. Donc, elle veut augmenter la chose et on sait qu'il y a quand même beaucoup de tournages à Montréal. Il y a beaucoup de, on voit souvent des affiches qui disent « tournage cinématographique, pas de stationnement ». Voilà, donc à suivre de ce niveau-là, pendant son mandat, il va sûrement faire des actions concrètes. Sinon, des nouvelles de Claude Lelouch, le réalisateur français qui tourne actuellement en Normandie. La suite, je sens que je vais avoir des gens qui vont être intéressés par ce que je vais dire là, la suite de son film « Un homme et une femme » qui a été réalisé en 1966. avec les mêmes acteurs. Oui, c'est un peu le louche, en tout cas. Avec les mêmes acteurs qu'en 1966, il va tourner ce film. C'est pas rien, là, on va se le dire. Ça fait quand même cinquantaine d'années de ça. Donc, très intriguant. Le scénario demeure secret. Il n'y a pas de date de sortie encore. Et surtout, on se croise les doigts que le film fonctionne parce que l'acteur Jean-Louis Trintignant souffrirait d'un cancer de la prostate. Mmh. Donc, en espérant qu'il réussisse à passer à travers tout ça et que ce film-là voit le jour, parce que c'est quand même un film culte qui a gagné une multitude de prix donc en 1966, à suivre donc de ce côté-là. Sinon, encore des nouvelles. Netflix, la dernière bande-annonce de la troisième saison de la série Marvel Daredevil est sortie. Donc, elle nous montre le retour du caïd Wilson Fisk dans donc cette troisième saison qui va sortir en octobre. Sinon, encore une bande-annonce, cette fois-ci, L'Empereur de Paris, c'est la première bande-annonce, donc ce qu'on appelle un teaser, qui vient de sortir. Vincent Cassel va jouer le premier rôle de ce film-là, qui va parler du brigand Vidocq, dont voici la bande-annonce.
Un ex-bagnard obsédé par l'idée de se racheter une place dans la société. Je vous l'ai dit, Vidocq. J'ai de grands projets pour vous.
Donc, quand même assez intriguant. La bande-annonce, évidemment, est très minimaliste à ce moment parce que c'est très tôt. Dans le tournage n'a pas été terminé ou quoi que ce soit. Franchement, ça a l'air super bon. J'ai des grandes attentes pour ce film-là. Donc, ça traite de l'histoire du brigand Vidocq avec Vincent Cassel qu'on voit partout.
Mais c'est ce que j'allais dire. On va se le dire. C'est quoi son quatrième film cette année?
Peut-être pas cette année, mais dans les dernières années, je dirais qu'il fait au moins deux ou trois films par année. Donc, on est dans le quelque chose. Sinon, c'est ça. En fait, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et il lui ressemble physiquement. J'ai été voir la page Wikipédia du brigand Vidocq. Okay. Et c'est assez surprenant de voir qu'il y a le même visage et on lui donne les petits cheveux frisés, tout ça. Ça fait quand même assez ressemblant. Donc, voilà, c'est tout pour les nouvelles. Le mois d'octobre est à nos portes. Mettez de la choucroute dans votre popcorn parce que c'est Cinébrunch. Mélina, t'es allée voir un film de biologie.
Exactement.
T'es allée voir La vie en soi.
Je suis allée voir La vie en soi, donc c'est scénarisé et réalisé par Dan Fogelman, qui est la même personne, qui est derrière la série This Is Us, donc Notre vie au Québec, qui est une série que je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, dont la saison 2, en fait, vient juste d'arriver sur Netflix. Donc,
t'es déjà en train d'écouter, j'imagine.
Exactement. Uh-huh. Donc, ça met en vedette Oscar Isaac, Olivia Wilde, Mandy Patinkin, Olivia Cooke, Laia Costa, Annette Bening et Antonio Banderas, qui est quand même vieilli pas mal dans le film. Donc, c'est assez intéressant. Et avant de vous en dire plus, on va aller écouter la bande-annonce.
Vas-tu finir par m'inviter à sortir, Will?
J'attends simplement le bon moment.
On se revoit bientôt.
Abby, j'attends le bon moment parce que quand je le ferai, il n'y aura plus jamais de retour en arrière possible. Je sortirai plus jamais avec une autre fille. Je tomberai plus jamais amoureux d'une autre. Tu comprends, si j'attends le bon moment, Abby, c'est que quand je t'inviterai à sortir, ce sera le moment le plus important de ma vie. Et je veux être certain que ce soit parfait. Oh.
La vie nous induit en erreur, en brouillant les pistes. Elle décrit un homme en héros, alors que c'est peut-être un ennemi. Héros ou ennemi? Voilà.
Voilà.
Ennemi ou héros? Thought that I
was in. Eh ben.
Et oui, donc c'était un extrait de la bande-annonce du film La vie en soi, donc comme je le disais, qui est réalisé par Dan Fogelman. Donc, c'est une histoire d'amour, en fait, multigénérationnelle. Ça se déroule à New York, ça se déroule en Espagne. On a des parties du film qui sont en espagnol sous-titrées. Donc, je vais pas vous le cacher, là, j'avais vraiment beaucoup d'attentes envers ce film-là, principalement parce que j'ai adoré et j'adore, en fait, la série This Is Us, Notre vie au Québec, qui est une série que je trouve vraiment magnifique pour plusieurs raisons. Mais parce que surtout qu'une des forces dans cette série-là, c'est vraiment dans son scénario, mais surtout dans la manière de raconter des histoires, dans la manière de se promener dans le temps. Donc, dans le film Life Itself que je viens de voir, on retrouve quand même une tentative de faire pareil, tout en faisant différent. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même un récit structuré de façon différente, surtout avec une vision, une prémisse qui est vraiment intéressante. Et cette prémisse-là, elle se trouve être un peu ce qu'on a entendu dans la bande-annonce. C'est la thèse que Abby va déposer. Donc, en résumé, elle dit que peut-être que les vilains et les héros dans l'histoire de notre propre vie ne sont que des figurants dans une histoire qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est un peu l'inverse de ce que les films nous montrent habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, on voit le personnage traverser une tragédie ou un drame. Dans ce film-là, on voit plusieurs tragédies, plusieurs drames, et on essaie de montrer que ça peut quand même résulter en une merveilleuse histoire qui se passe peut-être beaucoup plus longtemps, que dans le fond, la tragédie et le drame ne sont que les prémices pour une magnifique histoire d'amour. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau de la structure, de comment on raconte l'histoire. C'est un peu comme je le disais, c'est un peu différent de ce qu'on voit dans This Is Us, mais dans This Is Us, on retrouve aussi la même prémisse, en fait. Donc, on se dit, si on ne s'arrête pas à ces tragédies-là dans la vie, ça nous permet de voir donc le « bigger picture » en anglais, de voir l'ensemble du tableau, de voir que la tragédie, de pas s'arrêter à la tragédie en tant que telle. Donc, c'est très intéressant comme idée. On vient appuyer ça avec un film où on se promène dans différentes époques, justement, pour venir démontrer ça. Puis, malheureusement, c'est là que le film, il vient perdre la majorité de ses points. Parce que c'est rare que je vais dire ça, mais ça rejoint un peu le sujet que Jim et moi, on va parler en deuxième demi-heure. C'est que dans ce film-là, les choses sont trop claires.
Ah bon, carrément?
Carrément, oui. Donc, c'est un peu l'inverse. Donc, dans le film est séparé en 6 parties. Et les 6 parties commencent toutes par le nom du personnage qu'on va suivre sur un fond noir. Donc, on nous annonce c'est quoi chacune des parties. Puis, on perd donc tout le moment, le insight, où on réalise comment tout ça est relié. On perd le moment de « wow, je comprends ». On perd tout ce moment-là parce que ça nous est annoncé d'avance. On perd le moment où on se dit « oh my God, wow, quel scénario bien ficelé ». On nous donne comme ça tout cuit dans le bec. Puis, mon impression par rapport à ça, c'est vraiment que les producteurs ou certains gens, certaines personnes qui étaient autour de la production du film ont eu peur que les gens comprennent pas le film, qu'ils comprennent pas le scénario. Puis je pense que c'est pour ça que ça a été rajouté au montage.
Ils ont comme sursimplifié les choses.
Oui, c'est pas qu'ils ont carrément mis des slates noirs avec le nom du personnage pour nous dire « OK, là, on suit tel personnage », puis avec les noms. Avec les noms de famille, on est capable de faire des liens carrément tout de suite. Donc, c'est là qu'on perd tout le mystère ou toute la beauté d'un scénario qu'on comprend à la fin comment tout ça se relie ensemble. C'est ça qui enlève vraiment, selon moi, la majorité des points à ce film-là. Je dirais carrément un gros 3 points. C'est un film qui aurait pu être excellent parce qu'on retrouve tous les autres ingrédients. On a des super bons acteurs, on a des bons dialogues, on a une prémisse qui est très intéressante, qui est une manière différente de raconter une histoire. Et on a un super beau travail de couleurs et de musique. On a entendu un peu la musique dans la bande-annonce. C'est un peu comme dans This Is Us, dans notre vie. La musique est très bien choisie et va vraiment appuyer les émotions. Donc, ça rend ça vraiment, ça crée vraiment une belle ambiance. Mais surtout au niveau de la couleur, on voit que tout est réfléchi. Et juste pour vous donner un exemple d'une des premières scènes dans le film que j'ai vraiment beaucoup aimé, on a un homme qui est en rencontre avec sa psychologue. Donc, ils sont les deux dans son bureau à elle. Et on a un dialogue en champ contre champ. Donc, on part d'un plan de elle à un plan de lui. Et la psychologue, en fait, est assise devant une fenêtre. Donc, on a une image extrêmement éclairée. Il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de lumière. Et quand on se retourne à lui, lui est assis devant une bibliothèque. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est très sombre. Donc, on vient, puis c'est vraiment frappant le contraste de lumière, de couleur entre ces deux plans-là. Et ça représente vraiment à quel point le gars est dans une période très, très sombre. On parle de tragédie dans ce film-là. Les événements qui arrivent, c'est des événements très tragiques, définitivement. Donc, le fait d'aller chercher cette couleur-là, on voit pas seulement de voir cette couleur-là, c'est l'opposition avec la psychologue qui est dans un environnement tellement lumineux, tellement rempli de plantes, comme je disais, avec une super belle luminosité. Donc, ça vient renforcer ce contraste-là. Et c'est ça qui est beau dans ce film-là et également dans la série Notre Vie, c'est que rien n'est laissé au hasard. On voit que tout est vraiment réfléchi.
La photographie est vraiment peaufinée pour justement faire ressortir ces choses-là.
Exactement. La musique aussi, on voit que tout a été décidé, tout a été réfléchi pour amener le spectateur à vivre la chose qu'on veut qu'il vive. Donc, comme je disais, le problème avec ce film-là, c'est juste qu'on nous a comme super trop simplifié ça. Et c'est ça qui rend ça, qui fait en sorte qu'on perd le moment où on réalise que tout est relié, que tout est mis ensemble. C'est la grande force, en fait, de la série, notre vie, de la série This Is Us.
De ne pas le dire, justement.
Exactement, de ne pas le dire. On va avoir une histoire qui va... On va voir, en fait, deux histoires. Une qui va se dérouler dans le temps présent et une qui va se dérouler il y a 30 ans, mais qu'on finit par comprendre que tout est extrêmement lié et qu'un influence l'autre. Mais on s'en rend compte à un moment donné, c'est pas énoncé clairement quand l'épisode commence. Et c'est ça qui fait en sorte que cette manière qu'a Dan Fogelman de raconter une histoire est vraiment intéressante. Donc là, il y en a qui disent peut-être que sa façon d'écrire est simplement bonne pour les séries télévisées. Peut-être que ça marche pas en film. Moi, je vais vous dire mon avis là-dessus, c'est que je pense qu'il peut écrire un film qui est vraiment bien, mais la vérité, c'est que quand quelqu'un réalise un film, on pense qu'il a entièrement le contrôle sur le film qu'il réalise, mais c'est pas vrai parce que les producteurs, le studio de diffusion, les gens qui mettent l'argent derrière ça veulent s'assurer que le film va être un succès, donc peuvent imposer certains trucs, peuvent prendre des décisions, et je pense que c'est là que ça n'a pas fonctionné parce qu'on parle quand même d'un film qui a coûté 10 millions à faire, je pense, et que le box-office de la première fin de semaine est de seulement 2 millions. Donc, c'est vraiment pas un gros succès commercial en ce moment, ce film-là.
OK.
Et je comprends pourquoi, parce que si j'y vais avec une note, j'y vais carrément avec un 7 sur 10. Comme je disais, il perd vraiment un gros 3 points en nous rendant ça trop... Tantôt, on va parler des films qui sont trop compliqués, que les gens aiment, que les gens, que les critiques en sens, parce qu'ils sont trop compliqués. Mais là, je vous dis, c'est le contraire.
Ah ben, c'est vraiment intéressant. C'est on va sûrement faire des références dans la discussion qu'on aura dans la deuxième demi-heure.
Exactement. Donc, c'est pas un... Si vous êtes une... Je suis pas déçue d'avoir vu le film. Parce qu'on retrouve, comme je le disais, une prémisse qui est très intéressante, mais il faut pas s'arrêter au fait que le film est carrément séparé en 6 parties. Je pense que si vous êtes des fans de la série This Is Us, de notre vie, il y a quand même un côté, il y a une spécificité, il y a quelque chose que Dan Fogelman amène dans ses histoires qu'on retrouve dans le film aussi, qui rend ça intéressant, mais malheureusement, le film est peut-être trop simple et c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se fait donner trop tout cuit dans le bec.
Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Je comprends. Eh bien, 7 sur 10.
7
donc,
sur 10, voilà.
Voilà. Merci, Mélina.
Merci.
Cette semaine, j'ai été voir pour vous le film québécois « La disparition des Lucioles », donc un drame québécois écrit et réalisé par Sébastien Pilote, celui qui avait réalisé le film « Le démantèlement » en 2013, qui a eu une assez bonne présence médiatique. Bon, je sais que le film est classé comédie dramatique à certains endroits, mais croyez-moi, ces gens-là devraient vraiment regarder plus de films français parce que c'est vraiment pas drôle comme film. Donc, on est définitivement plus dans le drame, peut-être un drame léger, mais ça s'arrête là. Donc, le film met en vedette Karel Tremblay, donc ça se passe au Saguenay, Pierre-Luc Briand, Luc Picard et François Papineau. Sans plus attendre, voici la bande-annonce.
Fait que t'achèves le secondaire?
Il reste un gros mois avant les examens.
Après, c'est sérieux? As-tu pensé à ton avenir?
Mais là... Ma reine, on n'est plus en 1960, là. On dit plus ça, penser à son avenir. L'avenir, on essaie de pas y penser. Mon nom, c'est Léo. Toi, c'est quoi ton nom?
Steve.
Non!
Comment tu fais?
Il faut que je trouve un travail dessus.
C'est parce que j'ai pas envie de t'avoir dans mes pattes tout l'été.
Je suis comme la dame de cœur dans Les Oubliés des Merveilles. Je veux couper la tête de tout le monde.
Tu penses à ton avenir?
Qu'est-ce que vous avez tous avec l'avenir? C'est fatigant.
Ben, m'emmener.
Ouais, money, hein,
à c'est money. Ça. J'aime bien la bande-annonce.
Ouais.
Je veux juste dire tout de suite à nos auditeurs que je suis allée voir le film, en fait, avec toi.
Oui, absolument, absolument.
J'ai une opinion aussi sur ce film-là.
J'ai hâte de voir si ça va être une opinion
similaire. J'ai hâte de voir ce que toi, tu vas nous dire.
Oui,
en fait.
Ben oui, en tout cas, ça ne saurait attendre. Donc, le film s'appelle « La disparition des Lucioles ». l'histoire, en fait, c'est vraiment là que ça se corse. Donc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur clair dans ce film-là. On suit donc Léonie, Karel Tremblay, une jeune adolescente blasée et antisociale, qu'on entend d'ailleurs dans la bande-annonce, qui a envie d'arracher la tête de tout le monde. Une dure relation avec sa mère et son beau-père, interprété d'ailleurs par François Papineau, qui joue le rôle de Paul, un animateur de radio vedette d'une émission populiste de droite. Elle le déteste parce qu'il est notamment responsable de l'exil de son vrai père, lui syndicaliste, et joué par Luc Picard, qui est parti chercher du travail dans le Nord. Et bon, le film nous montre aussi la rencontre improbable de Léonie avec un homme un peu trop vieux pour habiter chez sa mère et qui donne des cours de guitare. Lui aussi semble avoir un passé trouble, il est casanier et réservé. Puis il joue de la guitare. Donc, bref, c'est un film d'ado. Ça s'inscrit, je dirais, peut-être dans la catégorie des films d'ado intelligents qu'on a depuis à peu près 2 ans. Donc, je pense à Charlotte Dufon qu'on a eu récemment, Lady Bird, et au pire, On se mariera l'année dernière. Donc, pas mal de films qui montrent la vie du point de vue d'une adolescente ou d'un adolescent sans non plus tomber dans l'espèce de parodie ridicule et l'humour du premier degré, plein de clichés, des films comme American Pie et compagnie. Donc, on avait il y a peut-être plus 10 ans. Donc, quelque chose comme ça. Il y en a encore, semble-t-il. Même s'il y a donc des ressemblances entre le film La disparition des Lucioles et Lady Bird, notamment le jeu de la jeune femme Karel Tremblay, qui fait un travail absolument merveilleux, dans un rôle qui est franchement pas si simple que ça à jouer. Même chose pour le jeune homme Pierre-Luc Briand, bien que son rôle soit un petit peu plus minimaliste, ça demande quand même de sortir de son confort, là, on va se le dire. Donc, là où le bas blesse, par contre, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est que l'histoire n'est pas au rendez-vous dans ce film-là. Et c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, j'ai mis plein d'expressions. Il n'y a pas vraiment de morale dans ce film-là. Il n'y a pas de thème très clair. Il y a plein de thèmes mis ensemble. Franchement, c'est un peu comme une tranche de vie de Léonie à son adolescence.
Exactement. Donc, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est comme si on prenait une photo de son dernier mois de secondaire 5. C'est de ça. Son dernier mois du secondaire, en fait, puis qu'on nous montrait ça. Mais c'est ça.
Sans jamais dans les détails nulle part. C'est un peu ça qui est particulier. C'est ça. C'est son adolescence. On la voit avec ses difficultés. On la voit à peu près pas à l'école, même si elle est en secondaire 5 puis qu'elle est visiblement intégrée dans un groupe d'amis. On n'en entend pas vraiment parler.
On les voit un petit peu, mais
tu sais, c'est à peine. Donc, juste pour placer un peu les personnages. Bon, attention, c'est pas que l'histoire est pas bonne comme telle. C'est juste que on dirait qu'on la comprend pas vraiment. On sait vraiment pas où ça s'en va, cette histoire-là. Les choses qu'on amène sont pas vraiment résolues non plus. Le gros du film, c'est, je dirais, de voir deux personnes mésadaptées socialement, peut-être avec raison, parce que, bon, la société est telle qu'elle est, artificielle, tranchée et tout ça. On découvre, avec ces personnages-là, avec ces jeunes-là, que malgré tout ce qu'on nous raconte depuis des siècles, le monde est pas manichéen. Il y a pas juste le bien et le mal, et que tout est dans tout, donc il y a un peu de bien dans les gens qu'on considère mal, il y a un peu de mal dans les gens qu'on considère bien. Même son beau-père, finalement, est pas si pire que ça, et son père est pas si bien que ça. Donc, c'est ça qu'elle découvre durant le film. Je veux pas trop divulgâcher, parce que c'est un peu ce que le film m'a fait ressentir, mais en gros, je dirais que c'est les thèmes les plus forts, c'est ça. Puis, je vais être quand même assez sévère avec ce film-là, parce que, entre autres, il a gagné le prix du meilleur long-métrage canadien au Festival du film international de Toronto il y a 2 semaines.
OK.
Puis, c'est tout ça qui nous amène aussi à notre autre discussion qu'on aura tout à l'heure. J'ai pas fini d'être sévère, malheureusement. Donc, bon, les jeunes sont bons. Luc Picard, rôle définitivement sous-utilisé dans ce film-là, mais je comprends que le but, c'était plus d'avoir le point de vue des jeunes, et ça, c'est très correct. Par contre, j'ai un petit peu l'impression, quand je regarde ça, qu'on voulait juste pouvoir mettre le nom de Luc Picard en haut des affiches. Donc, marketing, tout ça. Mais, dans le fond, il est pas là souvent. On en parle plus qu'on le voit. Puis il n'y a pas un gros rôle, là, on va se le dire. Donc, le film, franchement, la scène d'ouverture de ce film-là, à mon avis, est un échec total. Je vais en parler parce que, bon, je considère la première scène d'un film, si on a le droit de la dire. Donc, le film ouvre avec une scène dans un restaurant où on voit arriver Léonie en présence de sa mère, de son beau-père, de sa marraine et d'autres personnes du cercle familial, un espèce de genre de souper familial, on pourrait dire.
Oui, qui est pour son anniversaire, en fait.
Oui, ben c'est ça. Effectivement, j'avais même oublié, tu vois. Qui est pour son anniversaire, ça montre à quel point on sort complètement du sujet. Donc, c'est ça. Franchement, j'ai beaucoup soupiré pendant cette scène-là. C'est le moment dans le film où c'est bourré de clichés et de mauvais textes. ça n'a juste pas de bon sens. On entend « Ah, tu penses à ton avenir? Gna, 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 t'aurais pas dû t'habiller de même? Pourquoi tu t'es pas changé? T'es le même linge qu'à matin? » Bon, franchement, j'ai soupiré, je vous l'ai dit. Je vais être cru encore une fois. Marie-France Marcotte, qui joue la mère de Léonie, c'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon. Non, non, c'est trop cliché, c'est pas crédible, ça a pas d'affaire, là. Fouillez-moi d'où ce qu'elle sort, cette fille-là. On peut aller loin pour faire des mères intenses. Je pense au film de Ricardo Trogi,
oui.
Qui, franchement, la mère de Ricardo Trogi dans le film est beaucoup plus intense,
oui.
Et extrême, mais aussi beaucoup plus crédible, bizarrement. C'est ça le pire. Donc, mais là, ça passe juste pas. Je suis désolé, là, ça marche pas du tout. Là. On a une mère qui se soucie plus de comment sa fille a l'air devant les autres que de comment elle sent. En tout cas, franchement... Là,
oui, mais je pense que... Ben, moi, je suis un peu en désaccord avec toi parce que j'ai beaucoup aimé, en fait, cette scène-là.
Ah oui?
J'ai trouvé que ça montrait vraiment très bien le clash des réalités. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement ce type de mère-là, je pense que ça existe. On voit à quel point elle se rend compte que sa mère est complètement déconnectée de la réalité, de sa réalité à elle, en fait. Et je trouve que ça vient expliquer un peu son comportement. Mais ce que j'ai surtout aimé dans cette première scène-là, c'est les répliques que Léonie va dire, les répliques vraiment scintillantes, la façon
mais oui,
que...
mais c'est ça qui marche pas, moi, je trouve. Parce que oui, ces répliques, c'est bon quand tu le regardes, là, on va se le dire, oui. C'est intéressant, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est comme si les autres ne se rendaient pas compte qu'elle les narguait complètement. C'est comme si on est dans le théâtre, là, rendu là.
Je sais pas, parce que c'est particulier, l'adolescence. Et même quand tu vois quelqu'un...
Je sais pas, j'en ai pas eu, moi.
T'es tellement... Tout ça pour dire que je trouvais que toutes ces réactions d'adolescente, la façon qu'elle a de répondre aux adultes, la façon qu'elle a de juste, justement, se pousser, de ne pas se pointer, pour moi, c'est vraiment des comportements... typiquement adolescent, auquel je m'identifiais beaucoup.
Surprenant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu cliché, tout ça. Mais bon, visiblement, il y a des gens qui ont vécu des choses similaires. Donc, pour finir avec cette critique-là, je veux qu'on parle du titre du film. Donc, La disparition des Lucioles.
Parlons-en.
Oh. Quand j'ai entendu ce nom-là, la première fois, j'ai tout de suite pensé au film d'animation Le tombeau des Lucioles du studio Ghibli. Un film qui a marqué ma vie, carrément, qui m'a marqué... pour toujours, c'est sans doute le film le plus difficile à regarder en termes de misère humaine que j'ai jamais vu de ma vie. Les Lucioles, dans ce film-là, font référence à quelque chose de très construit dans le film, qui ont beaucoup de signification, beaucoup d'images associées. Dans ce cas-ci, malheureusement, dans La disparition des Lucioles, c'est franchement... Les amis, vous auriez pu faire un peu mieux. la métaphore des Lucioles est très mal, ou en tout cas sous-utilisée.
Oui, définitivement.
Au moins... pour justifier le titre du film, on va se le dire. J'en dirai pas plus, sinon vous irez pas voir le film, puis c'est pas ça le but. Je pense que c'est pas un mauvais film. D'ailleurs, je lui donne un 6.5 sur 10, ce qui est pas si mal. Ça passe, mais je pense que vous devriez aller voir La disparition des Lucioles et faire votre propre idée sur ce film-là. Je sais que je suis sans doute en train de fâcher pas mal de monde avec ma critique, mais... ça demeure un film intéressant, avec d'excellents acteurs. Je suis très sévère avec le film parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ma critique, c'est parce qu'on a tourné des coins ronds un peu partout, mais c'est surtout parce que le film a gagné le prix du meilleur métrage canadien au Festival de Toronto, alors qu'à mon avis, il y avait des films vraiment mieux construits qui auraient mérité ce prix-là. Donc, c'est là que la question se pose. Mais pourquoi certains films qu'on comprend moins ou qui sont moins peaufinés sur certains points au niveau du récit ou de l'intrigue, remporte des prix. Et ce sera le sujet de notre prochaine discussion. On en parle dans quelques minutes d'ailleurs, parce que c'est un sujet, disons, un peu piquant, donc un peu dangereux, mais on va se permettre
on va s'y attaquer.
Oui. Donc, dans quelques instants, on jase de tout ça. Donc aujourd'hui, on veut parler de films qui ont une bonne critique, qui sont populaires, qui gagnent des prix, mais qui devraient peut-être pas. En fait, on va plutôt essayer de comprendre, de discuter en fait ensemble de pourquoi ça se produit. Pourquoi un film avec un récit plein de trous, ou pour lequel y a, personne ne peut comprendre l'histoire, est avantagé devant d'autres films qui respectent une structure narrative un peu plus élaborée. J'ai d'ailleurs une théorie sur le sujet, et ça demande... que je vous résume un conte danois que vous connaissez peut-être, Il s'appelle « Les habits neufs de l'empereur ». C'est écrit par Hans Christian Andersen en 1837. Je vais vous raconter brièvement. C'est l'histoire d'un empereur, je pense espagnol, je ne suis pas sûr, qui aimait vraiment beaucoup les vêtements, plus même que de gouverner son empire. Un jour, des charlatans arrivent au château en se faisant passer pour les meilleurs tisserands du monde. Ils proposent à l'empereur de lui faire un habit exceptionnel et magique, un habit que les idiots et les incompétents ne peuvent pas voir. Seuls les gens intelligents peuvent voir l'habit. Évidemment, les charlatans sont grassement payés et logés pour fabriquer un habit qui n'existe même pas. Quand les charlatans ont amassé assez d'or, ils présentent à l'empereur les habits invisibles, en fait l'habit invisible. L'empereur, ne voyant rien, réalise qu'il est idiot lui-même et pour ne pas que ça se sache, fait semblant de voir les vêtements. Lorsque les ministres aperçoivent l'empereur portant son habit invisible, donc tout nu, chacun croit qu'il est idiot en soi et donc tous applaudissent et complimentent l'habit qu'ils ne voient pas. Évidemment, tout le monde a peur qu'on les démasque et qu'on voit leur stupidité. L'empereur, voyant que tout le monde applaudit et complimente son habit, ne peut croire qu'il est le seul à ne pas voir son habit et donc ainsi de suite. Et ma théorie, c'est qu'en termes de critique de film, tout comme en art plus traditionnel ou contemporain, les critiques et les juges reproduisent exactement la même chose que les ministres de l'empereur.
C'est intéressant ce que t'amènes, Jim.
Oui, parce que ça fait longtemps que j'y pense, puis je suis content qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qu'on a longuement discuté, abordé à l'époque avec Louis, avec notamment le film Le problème d'infiltration, qui a une fin, disons, ouverte. Quand un film est mal construit ou très flou, très abstrait, et qu'on ne comprend pas l'histoire, on pense qu'on est stupide parce qu'on ne comprend pas. Et on dit « Wow, j'ai compris et c'est très profond » ou « L'artiste fait une métaphore sur tel sujet abstrait ». Et évidemment, si un critique connu semble avoir bien compris un film, ben les autres après qui vont faire la critique diront pas « L'histoire n'est pas claire dans ce film-là, j'ai rien compris » parce qu'il a l'air idiot. Parce que l'autre a compris ou les autres ont compris. Ce qui fait qu'on prend un film avec des failles scénaristiques importantes qui peut se transformer en chef-d'œuvre du cinéma simplement parce que personne n'a compris, puis tout le monde fait semblant d'avoir compris, plus que l'autre.
Oui.
Donc, voyez-vous un peu le concept? C'est vraiment ce qui fait qu'on peut prendre un film avec des failles qui va devenir un chef-d'œuvre du cinéma, qu'il est nominé, qu'il va gagner des prix, alors que le secret de ce film-là, c'est une imperfection abstraite. Donc, moi, je suis de l'école de pensée Lavandier. Donc, en termes d'analyse de scénario, je crois que tous les films doivent respecter certaines règles, à moins d'entrer dans, évidemment, les films expérimentaux qui font exprès de sortir de ça, ce qui est très bien aussi. Mais là, on parle quand même d'un cinéma populaire. On parle quand même d'un cinéma qui s'adresse à tout le monde, qui s'en va pas strictement dans des festivals obscurs, dans des provinces, dans des villes qu'on connaît pas en Allemagne. C'est des choses qui sont diffusées massivement dans les cinémas du Québec et du monde. Tantôt, je parlais du film « La disparition des Lucioles ». À mon avis, ce film-là a beaucoup de failles scénaristiques. Ce film-là respecte pas ce qu'on pourrait appeler un fil conducteur du récit. Il y aurait eu moyen, il y a des endroits où j'aurais aimé avoir des réponses. J'aurais aimé savoir ce qui allait se passer ou ce qui s'est passé avant ou comprendre pourquoi les choses se passent de telle façon. Mais on est juste dans une espèce de zone statique et comme c'est très crédible au niveau du jeu de l'actrice, on n'a comme pas besoin, je pense, c'est l'idée, j'imagine, du réalisateur, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Mais oui, on a besoin d'en savoir plus parce qu'on reste sur notre fin, là, carrément. La fin de ce film-là, je ne vais pas la divulgâcher, mais c'est très insuffisant. À mon avis, c'est très insuffisant. Je comprends qu'on a fait exprès tout au long du film de ne pas entrer dans certains clichés, notamment les clichés amoureux typiques, des choses comme ça. On n'est pas entré là-dedans. C'est très bien, je respecte ça. Mais donne-moi quelque chose. Donne-moi un deuil, donne-moi une évolution du personnage. Il n'y en a pas, là. C'est du début à la fin, le personnage garde le cap, puis c'est tout le monde autour qui est tout croche. C'est ça. En tout cas, bref, je vais revenir sur le sujet dont on parle, mais c'est ça qui me... voilà, ça me graffignate le dos. Donc, c'est ça. Moi, je suis de l'école de pensée qu'il faut suivre certaines règles. On peut, comme on dit en anglais, « binder » les règles. On peut les tordre. On peut jouer avec ces règles-là. On peut... En éviter quelques-unes. Mais il faut que ça se tienne quand même jusqu'à un certain point. Il faut qu'on comprenne. Il faut que ça respecte au moins le concept d'introduction, milieu, conclusion. Tu sais, il y a des choses essentielles qu'on ne peut pas enlever qui font un bon récit. Je pense que la chose que j'ai le plus, c'est une annonce non résolue. Donc, on place quelque chose dans une scène, on met l'accent sur un élément, un problème, un objet. Il faut que ça serve. Exactement. Sinon, je perds mon temps. Pourquoi tu me fais perdre mon temps?
Oui.
Donc, tu sais, c'est ça.
Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup déplu dans le problème d'infiltration, c'est que j'avais l'impression que c'était rempli d'annonces non résolues. Et c'est vraiment pour ça que j'ai absolument pas aimé ce film-là.
Oui, mais c'est ça. On s'attend à une certaine consistance. Tu peux pas juste faire finir ton film avec une grosse métaphore visuelle ou surnaturelle. Tu sais, la fin, si je comprends pas la fin, pour moi, c'est cheap. Il faut que, soit que je comprenne, soit qu'on me donne plusieurs hypothèses, soit qu'on me laisse le choix. Mais si on me laisse le choix, donne-moi une raison d'avoir le choix. Et souvent, on n'en donne juste pas. Souvent, je suis certain que, je veux dire des grossièretés, là, mais je suis certain que beaucoup de scénaristes savent pas comment finir leur film. Parce que c'est dur de finir un film. C'est probablement la chose la plus difficile parce que tu as un climax à avoir. Tu as besoin d'avoir une résolution à ton film qui a du sens. Puis dans les films plus dramatiques, qui sont pas des films... Les comédies, c'est un peu plus facile, c'est un peu différent, mais dans les films plus dramatiques, finir ton film, tu peux pas juste finir avec un gag, comme dans les séries ou dans les comédies. Il faut que tu finisses avec quelque chose qui justifie le reste du film. Tu as le poids du film complet à finir.
Mais je pense que c'est la force de Dan Fogelman, que je parlais plus tôt, qui a réalisé la série Notre vie et le film que je suis allée voir, La vie en soi, c'est que c'est vraiment ça. Lui, il va faire des drames et il va avoir, justement, la fin du film va toujours être... Bonne. Tu vois qu'il y a
à la hauteur du reste.
Il y a une réflexion et il y a une raison, et c'est exactement ça, il y a une raison pour laquelle tout ces... et c'est même le point central sur lequel il va baser son film, c'est que toutes ces tragédies-là qui vont arriver durant le film, ils ont peut-être une raison d'arriver, et c'est ça qu'on va découvrir à la fin du film. Donc on nous laisse pas juste sur une tragédie, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces films à lui. Mais effectivement, dans plusieurs films, souvent on sait pas trop comment finir, on va suivre un personnage durant une tragédie. On a le cliché qu'à la fin du film, il va être heureux et il aura plusieurs enfants. Vous voyez le cliché Disney ici.
Oui. Ou ça marche pour les films pour enfants, mais...
Ou sinon, c'est ça. Mais comment on finit un film alors que tu viens de voir un personnage pendant une heure et demie souffrir d'une immense tragédie? Donc, il va y avoir différentes résolutions possibles, mais je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que dans certains cas, on ne sait pas comment finir le film.
Ben c'est ça. Puis... C'est ça, il y a des façons de finir, puis des fois, j'ai l'impression qu'on tourne les coins ronds, puis ces réalisateurs-là, veulent pas, sont très surpris de voir que leur film, il marche autant, que la fin est appréciée. Mais encore là, est-ce que c'est l'histoire de l'empereur? C'est ça la question. Est-ce que les gens ont compris la fin du problème d'infiltration? C'est ça la vraie question. Je suis certain que certaines personnes ont dû comprendre. Peut-être les gens qui connaissent beaucoup le travail du réalisateur, qui a quand même fait pas mal de films, les gens qui connaissent beaucoup le réalisateur ont peut-être une petite idée, parce que au niveau analytique, il y a certainement des choses qui reviennent, qui se recoupent. Mais sinon... Pour quelqu'un qui va au cinéma, puis ça amène une autre question encore plus profonde. Pourquoi on fait des films?
Oui.
Pour qui? En tout cas, on va y revenir, mais chose certaine, pourquoi je devrais faire « Wow, le film parfait et impeccable » juste parce que d'autres critiques prétendent qu'ils ont compris le film, eux autres? Moi, je m'excuse, mais non, j'ai pas compris ce que je voulais comprendre ou ce que je devais comprendre dans ces deux films-là. Ça s'en allait plutôt bien. Je veux dire, au niveau du problème d'infiltration, c'est un film... où tout devait se régler à la fin. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce film-là. Il y a des bons moments, d'excellents moments dans ce film-là que j'ai rarement vu au cinéma québécois. Mais, à mon avis, gros échec au niveau de la conclusion du film. Ça, c'est personnel. Sinon, au niveau du film La disparition des Lucioles, ben là, c'est simplement que j'aurais aimé que toute cette espèce de stagnation-là, cette espèce de statu quo durant le film, de non-évolution des personnages, finissent par quelque chose. Il y a un deuil à un moment donné dans le film. C'est pas la bonne personne qui a le deuil. Puis encore là, y a-tu vraiment un deuil? Ça, c'est une autre question.
C'est
ça, c'est ça. C'est tout des petits éléments importants. Mais tu sais, bon, ça se peut aussi que c'est moi qui n'ai pas compris, puis il y a des illuminés qui ont tout compris exactement la métaphore de l'auteur du film, puis tout ça. Mais je pose la question encore une fois, pourquoi on fait des films? Pour qui on fait des films? Moi, je pense que le cinéma a toujours été quelque chose de populaire. Je pense qu'on contribue à rehausser le niveau culturel d'une société, entre autres par la projection de films. Mais je pense qu'un film, en fait, son but, c'est de passer un message. C'est de faire réfléchir sur des sujets sociologiques, psychologiques, culturels, émotionnels, peu importe. Et le but, c'est de passer ce message-là pour l'auteur du film, du scénario ou le réalisateur, de s'exprimer à travers ce film-là pour faire comprendre quelque chose qu'ils ont en dedans d'eux autres. Bon, c'est ça le but. Mais si on fait quelque chose que personne ne comprend, mais que tout le monde prétend comprendre avec le théorie de l'empereur. C'est ça.
C'est simplement une projection. Alors,
ben c'est ça. Donc, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
Fait que c'est un échec. Donc, c'est
je vais
ça,
revenir
mon
avec
pensée.
Ce que je disais. Le Dan Fogelman, qui écrit le film que j'ai vu, la série, a ça. Parce que je pense que lui va prendre probablement une vision qu'il a de la vie il va construire un scénario qui va aller démontrer ça. Donc, il y a vraiment un message qu'il veut faire passer en dessous. Mais je veux dire, il y a vraiment un message qu'il veut faire passer dans son film. Il sait c'est quoi le message et il va construire un scénario autour de ça. Alors que j'ai l'impression que dans d'autres cas, on va prendre un personnage, on va trouver un personnage, on va lui faire vivre des choses, mais on n'a pas vraiment de message qu'on veut faire passer.
Ben, c'est ça.
Et c'est là que ça devient problématique. Moi, quand je suis sortie du film La disparition des Lucioles, je me suis dit, bon, j'ai pas vraiment compris. Peut-être que c'est un film, parce qu'il y en a des films, on va se dire, il y a des films qui méritent d'être mijotés. Ils méritent que film, on le mijote,
sur
un
le
petit
coup,
24
on est pas
heures.
Sûr.
Exactement.
Puis là, les idées viennent, oui. Là, on comprend.
Puis, des fois, il y a des films comme ça qui grandissent en nous et qu'on sort de là, on n'est pas sûr. Puis une semaine après, tu dis, waouh, c'était vraiment un bon film.
Oui, 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 je suis d'accord.
Ce film-là m'a accompagné toute la semaine et m'a fait voir des trucs qui se passaient dans ma vie de façon différente. Un peu comme des verres fumés que tu garderas en sortant du film. Et qui reste sur tes yeux durant une ou deux semaines, qui permet de voir des choses de façon différente.
Ça, c'est une réussite totale.
C'est vraiment une réussite. Sauf que, il y a plusieurs films qui s'essaient de faire ça et qui ne réussissent pas.
Mm-hmm.
Du moins, moi, quand je suis sortie La disparition des Lucioles, je me suis dit ça. J'ai médité un peu sur le film, j'ai réfléchi, j'en ai discuté, mais je comprends toujours pas c'était quoi le message en dessous du film. Qu'est-ce qu'on voulait montrer?
C'est ça.
Et je pense que c'est ça, les gens qui font des films autobiographiques vont réussir à ce niveau-là parce qu'ils ont vraiment un message qu'ils veulent passer.
C'est clair.
Exactement. Et ce que je veux parler, c'est du film Lady Bird,
oui.
Qui est aussi un film d'adolescente.
Oui.
Un peu dans le même
qui
sens.
Qui est probablement un peu biographique, d'ailleurs, parce que l'auteur du film...
Il est très biographique.
Vivait dans la même ville où ça se passe, etc. Oui.
Exactement. Et je pense que c'est ça, la force de ce film-là, c'est qu'il est très biographique. Eva, ou 1991, qu'on a vu récemment,
les films de Trogi,
voilà. Où il va vraiment se baser sur une expérience de sa vie, sauf que lui, je veux dire, quand c'est ta propre vie, c'est facile de voir, mais c'est facile. Avec le recul, à un moment donné, tu vieillis, tu revois,
tu repenses toujours à ta vie, exactement. Tu mets ça, en image, oui.
Tu comprends des choses comme ça. Il y a un truc très intéressant qui est dit dans le film 1991 de Ricardo Trogi, quand Ricardo est justement dans son cours de scénarisation à l'UQAM,
et c'est vrai.
Il y a un professeur qui va lui dire. C'est quoi ton plus grand défaut ou quelque chose comme ça, et construit une histoire à partir de ça. Et finalement, on se rend compte que, dans le fond, le problème de Ricardo Trogi, c'est qu'il ne s'assume pas. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il va toujours se mettre dans des situations et il va finir par subir des choses. Mais on se rend compte que tout ça est basé, tous ces trois films-là sont basés sur ça. Sur le fait, lui va dire, dans le film, il va dire « Ah, ben je suis un peu paresseux. » Le professeur va dire « Oui, mais non, tu vas pas écrire un film
non, c'est ça.
Sur un personnage qui est paresseux. » Mais un film sur un personnage qui se met toujours un peu les pieds dans les plats parce qu'il veut pas dire la vérité, parce que il veut pas déranger ou il veut pas checker ou peu importe. Et c'est ça qui va construire sur ses histoires. C'est que si on pense à 1981, quand il a 11 ans, et qu'il va faire à croire qu'il a accès à des magazines pornographiques pour être dans la gang, mais qu'il l'a pas vraiment, alors ça va, tout ça va générer des histoires et il va avoir une résolution à un moment donné parce que justement ça finit par le rattraper. Donc on a vraiment un personnage qui a un défaut, si on veut, ou qui a une particularité, et que ça va créer le scénario. Donc je pense que dans le cas de films biographiques, c'est beaucoup plus facile pour le scénariste qui a un recul sur sa vie quand il l'écrit, pas sur le moment que ça
mais
se passe.
Je sais pas si ce film-là est semi-biographique ou pas. Au niveau de La disparition des Lucioles, j'ai aucune idée. Est-ce que, parce que bon, je pense que l'auteur est de la région, je suis pas certain, mais peut-être qu'il s'est basé sur quelque chose là, de concret. On n'est pas au courant, j'ai pas recherché là-dessus. Mais
si il se base sur quelque chose de concret, il se passe peut-être plus sur un événement, sur un été qu'il a vécu, plutôt que sur une morale, un trait de personnalité, quelque chose qu'il a appris et qu'il a compris, qui lui a permis d'évoluer durant cet été-là.
Oui. Et ça me fait penser aussi, parce que là, on parle de biographie, mais le film de Biz...
Oui. La chute de Sparte.
La chute de Sparte, qui, là, à mon avis, justement, commet les erreurs d'un film biographique. C'est de ne pas considérer, d'adapter des éléments biographiques ou historiques à notre temps actuel sans faire les corrections d'usage.
C'est très vrai.
Alors ça, c'est un autre problème.
C'est un autre problème, oui.
Parce que le film
La chute de Sparte aurait été très bon s'il avait été...
Ça s'était passé dans les années 90.
Exactement.
Absolument, ça aurait été parfait.
Dans l'époque où il s'est vraiment passé, parce que là, il y aurait eu une cohérence.
Oui, les personnages avaient des discours de ces années-là.
C'est ça.
Donc, il y a aucune...
Des actions de ces années-là.
C'est ça, ce qui ne marche plus aujourd'hui. Je veux dire, c'est plus comme ça, on parle plus comme ça. L'intimidation, c'est plus de la même façon.
Exactement, et la technologie a changé aussi.
En
à quel point, quand tu es adolescent, la technologie va influencer. C'est-à-dire que dans les années 80 versus dans les années 2000 ou 2010 ou 2015, les gens, les adolescents vont agir de façon complètement différente parce que la technologie influence grandement comment ils agissent. Donc, ouais. tu peux pas prendre quelque chose qui s'est passé dans les années 90 puis le mettre dans les années 2015, ajouter des téléphones cellulaires, mais sans changer nécessairement les actions que les personnages vont prendre. Parce que là, ça fonctionne pas.
Ben, c'est ça, exactement. Puis dans La disparition des Lucioles, justement, le premier téléphone cellulaire apparaît à peu près au milieu du film. Ça aussi, c'est bizarre.
Oui, effectivement. Ça, c'est...
Encore là, bon, peu importe, ça, on pourrait en parler durant des heures, mais je pense que on a quand même pas mal fait le tour de la question. Je ne sais pas si nos auditeurs ont des idées sur le sujet, s'ils sont complètement désaccord avec nous ou si, au contraire, ils partagent notre opinion, ou s'ils ont d'autres idées pour nous. Ils peuvent nous contacter par Facebook. Oui. Rendez-vous sur notre page Facebook, donc Cinébrunch sur Facebook ou directement sur notre site web cinébrunch.com. Il y a un formulaire pour nous contacter.
Définitivement, parce qu'avant, on avait Louis qui aimait bien...
Qui était l'avocat du diable, exactement. Oui, c'est ça. Mais là, malheureusement...
Jim et moi avons besoin de quelqu'un qui va brasser nos idées. Donc,
brasser nos idées, on est prêt à revenir sur ce sujet-là au besoin.
N'hésitez pas.
Et sinon, ben merci Mélina, c'était fort intéressant comme conversation.
Merci.
Mélina, le temps file, le temps nous glisse sous les doigts comme le sable au soleil sur une plage du Maine. Dans tous les cas, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du gala Emmys qui s'est déroulé il y a quelques semaines et on n'a pas vraiment pu en parler la semaine dernière. Il y a des gagnants à cette chose.
Oui, il y a des gagnants. En fait, je vous en avais parlé au printemps dernier parce que les nominés étaient sortis. Donc, les Primetime Emmy Awards, c'était les 70e. Ça s'est déroulé, la cérémonie, le 17 septembre dernier. Et c'est une cérémonie qui récompense les programmes de télévision diffusés durant les heures de grande écoute. Donc, c'est pour ça le Primetime qui accompagne les Emmy Awards. Donc, l'émission de télévision qui a gagné le plus de récompenses et la série dont le titre français est Madame Maisel, femme fabuleuse, donc en anglais The Marvelous Madame Maisel, qui est une série Amazon qui est créée par Amy Sherman-Palladino, qui est la créatrice entre autres de Gilmore Girls.
Ah bon, quelqu'un de connu quand même.
Oui, et c'est une série qui a l'air quand même intéressante, je ne l'ai pas vue passer. En fait, je vous lis un peu qu'est-ce que le résumé. C'est ça se déroule en 1958 à New York et on suit le parcours d'une femme qui est mère au foyer et qui découvre qu'elle a un talent pour la comédie stand-up. Donc, assez intéressant. Donc, ça a quand même gagné 8 récompenses.
Ah, quand même. Et j'imagine que c'est diffusé sur le réseau Amazon Prime.
Exactement.
Et disponible aux gens qui sont abonnés à Amazon Prime.
Exactement. Et il y a une série qui joue depuis 2013 qui s'appelle The Americans. Donc, j'ai pensé à toi pour la série The Americans, qui a quand même remporté des prix, mais ça, on va y revenir. Ça se passe durant les années 1980, durant la guerre froide, et on suit deux agents du KGB qui sont postés aux États-Unis, en fait, et qui font à semblant d'être un couple marié qui vivent dans une banlieue en Virginie et qu'ils ont des enfants. Et que leur voisin, en fait, est un agent du FBI et eux autres, en fait, sont des agents du KGB. Alors, ils ont plusieurs trucs à faire par rapport à ça. Et donc, ça fait 6 ans que la série est sur les ondes.
J'ai jamais entendu parler de ça. C'est bien drôle, ça.
C'est
ça a l'air bien, effectivement.
Ça a l'air très bien. Donc, la série The Americans a gagné 2 prix, dont notamment pour le meilleur acteur dans une série dramatique. Donc, ils sont très contents d'avoir été enfin récompensés. Ça a l'air d'une série très bonne et je pense que ça te plairait beaucoup d'écouter ça.
Oui, je vais
ça,
voir, c'est diffusé. Est-ce qu'on sait où c'est diffusé?
Semble-t-il que c'est sur Netflix.
Ah bon? Carrément. Bon, ben je vais m'y mettre de façon plus sérieuse. Ben écoute, plein de belles choses aux Emmys Awards. Merci beaucoup, Mélina.
C'est le moment des sorties cinéma. Je suis sorti
avec... Et du côté des sorties maintenant.
Oui, on a plusieurs films qui sortent cette semaine. Les Abominables Petits Pieds. Donc, la version française du film Smallfoot. Donc, vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide Yeti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes. Un humain. Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité et de conquérir la fille de ses rêves, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté Yeti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde. Donc, c'est un peu comme l'inverse de Bigfoot. Hein?
Ouais,
c'est
ouais,
plus
c'est
eux
ça.
Autres qui nous découvrent.
J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air assez drôle.
Ça avait l'air assez drôle. Donc, sinon, on a le film L'Ultime Voyage, version française du film The Last Suit. Et on suit donc l'histoire d'Abraham Borstein, un tailleur juif de 88 ans, qui parvient à échapper à sa famille qui veut le placer dans une résidence pour personnes âgées. Il quitte alors Buenos Aires pour la Pologne, avec la volonté de retrouver l'homme qui l'a sauvé d'une mort certaine à Auschwitz. Après plus de 7 décennies, Abraham veut renouer avec son vieil ami et remplir la promesse qu'il lui a faite un jour, celle de revenir le voir pour lui dire tout au sujet de la vie palpitante qu'il a pu vivre grâce à son courage.
Oh.
C'est un film assez intéressant. Et sinon, on a le film Primas, donc, qui est Sinon, on a le film Primas qui va sortir, donc qui est l'histoire de Rokio, a vécu ce qu'un enfant ne devrait jamais vivre. Devenue une jeune fille lumineuse, elle continue de lutter contre le souvenir de l'agression qui a laissé de nombreuses marques sur son corps.
Ah oui, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air extrêmement rough, ça.
Ah oui?
Oui, c'est ça. C'est une jeune femme qui a été, agressée. Puis c'est comme un genre de documentaire, mais pas documentaire en même temps, avec... c'est plein d'images un peu partout. On la voit pleurer, on la voit crier, on la voit... C'est vraiment, vraiment intense.
C'est ça. C'est ce qu'ils disent. Laura Barry les filme dans leur joie du quotidien comme dans leur confidence douloureuse en Argentine puis à Montréal où le cirque et le théâtre vont leur permettre de renouer avec elles-mêmes à corps et à cri. Donc effectivement, ça a l'air assez sombre. Quand même intéressant.
Oui.
Et le dernier film qui est sorti hier, en fait, c'est le film Cours du soir, donc Night School. Le résumé est un groupe d'adultes inadaptés et forcés de retourner sur les bancs de l'école pour repasser leurs examens de fin d'année du lycée. C'est avec Kevin Hart, on a vu la bande-annonce à plusieurs reprises. Ça a l'air d'une
film
comédie
d'ado,
un peu niaiseuse.
Ouais, c'est ça. Sans doute, tu iras voir ce film la semaine prochaine.
Peut-être.
En fait, cette semaine.
C'était ça pour les sorties.
Ben, merci, Mélina. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Si vous avez aimé l'émission ou que vous n'avez rien compris, mais que vous voulez quand même avoir l'air intelligent, vous pouvez nous réécouter en tout temps via notre site internet cinébrunch.com ou sur iTunes et Google Play. Si vous avez des suggestions ou des choses à nous dire, contactez-nous via notre page Facebook Cinébrunch. On se retrouve donc samedi prochain dès 11h sur CFLX et en balado-diffusion. Bonne semaine à tous!
Bonne semaine!